Travailleuses, travailleurs, camarades, chers amis. Alors vous le savez, les Britanniques ont voté pour que leur pays sorte de l'Union européenne. C'est une victoire pour tout ce que la Grande-Bretagne et l'Europe comptent de réactionnaires anti-immigrés, de nationalistes et de partisans de ce qu'ils appellent la souveraineté nationale. Et il n'y a qu'à voir la mine réjouie d'une Marine Le Pen pour comprendre que cela ne va pas dans le bon sens. Cameron, le premier ministre britannique, se retrouve dans la situation de l'arroseur arrosé. C'est lui qui a en effet déclenché ce référendum pour essayer de couper l'herbe sous le pied de la droite xénophobe. Et aujourd'hui, le voilà forcé de démissionner. C'est aussi un camouflet pour les dirigeants européens qui voient tout leur édifice institutionnel se craqueler. Mais les travailleurs ne peuvent même pas s'en réjouir. Parce que dès demain, les milieux de la bourgeoisie et leurs serviteurs politiques s'attelleront à en reconstruire un autre. Pour leurs affaires, pour le commerce, pour le business, ils trouveront d'autres traités et ils signeront d'autres accords. Et pour les travailleurs, pour les exploiter, ce sera toujours la même musique. La compétitivité, le chantage à la concurrence et à la lutte pour les marchés. Comme nos camarades de Grande-Bretagne l'ont expliqué pendant cette campagne, les intérêts des travailleurs n'étaient représentés ni par les in, ni par les out. C'était un faux choix entre deux façons différentes d'être pendus. Les travailleurs n'avaient rien à gagner dans ce référendum et ils ont déjà perdu beaucoup. Certains d'entre eux ont voté pour sanctionner Cameron et sa politique anti-ouvrière, pour rejeter cette caste politique et des institutions qui n'ont jamais été de leur côté. Mais ce rejet légitime a pris le sens d'un vote nationaliste, violemment anti-immigré et raciste. Il s'est nourri des préjugés visant à dresser les travailleurs britanniques contre les travailleurs immigrés, les immigrés de longue date contre ceux récemment arrivés. Il s'est nourri de la tentation du repli sur soi que l'on sent monter partout en Europe et il va contribuer à les renforcer. Dans tous les pays d'Europe, ici en France, l'extrême droite s'en sert déjà pour tromper les travailleurs et agiter le chiffon rouge de l'Union européenne et de l'immigration, alors que les responsables de la crise et du chômage de masse sont ceux qui dirigent les grands groupes capitalistes, la bourgeoisie, les possédants. Le Front National et les dirigeants européens du même acabit parlent tous de souveraineté nationale. Mais qu'est-ce que cette souveraineté nationale peut signifier pour les exploiter quand ils doivent en passer par un patron pour avoir le droit de se faire exploiter? Quand leur salaire, leur retraite, ce qui détermine l'essentiel de leur vie est dépendant du bon vouloir patronal. La souveraineté, c'est le hochet avec lequel les démagogues veulent détourner la colère des travailleurs, des véritables responsables. Et pendant que les travailleurs roumains ou polonais se verront entravés dans leur mouvement, contrôlés et interdits de se déplacer ou de s'installer où ils peuvent pour essayer de gagner leur croûte, la minorité capitaliste continuera de faire des affaires avec l'Europe et le monde entier, que leur pays soit dans l'Union européenne ou dehors. Alors, nous nous opposerons ici à tous ceux qui veulent tromper le monde ouvrier en parlant de souveraineté nationale et en flattant les préjugés nationaux et anti-immigrés. La seule façon d'aller de l'avant, c'est de préparer les travailleurs à combattre leur ennemi intérieur, leur patron, leur gouvernement et leur système, en s'unissant, quelle que soit leur nationalité, par-dessus toutes les divisions que les capitalistes voudraient créer dans leur rang. On le voit avec cet exemple du Brexit qui oriente déjà ici en France le débat politique sur la question européenne. Toute la vie politique est agitée d'une série de faux problèmes pour les travailleurs, de pièges qui masquent leurs véritables adversaires et les combats qu'ils ont à mener. C'est sur le terrain de la lutte de classe que se jouent les intérêts des exploités et c'est sur ce terrain qu'ils peuvent se défendre et avancer. La loi El Khomri, qui vise à démolir les droits collectifs des travailleurs, a le mérite, si je peux dire, de placer justement le débat politique sur ce terrain de classe. Quand bien même le Front National et même Jean-Luc Mélenchon tentent d'expliquer que c'est une loi dictée par Bruxelles, les travailleurs l'ont bien pris pour ce qu'elle était, une attaque voulue par le MEDEF et orchestrée par le gouvernement, une bataille de la lutte de classe. Eh bien, c'est déjà en soi une grande avancée pour le monde du travail. Que le gouvernement aille jusqu'au bout ou pas, cette loi El Khomri est devenue, pour Valls et Hollande, le symbole de leur politique pro-patronale. Et c'est devenu un boulet qu'ils traîneront jusqu'en 2017 et même au-delà. Ils ne peuvent sortir de ce bras de fer que très affaiblis. Au contraire, les travailleurs en sont déjà renforcés. Cette mobilisation, qui dure maintenant depuis 4 mois, a en effet sonné le réveil de la combativité et de la conscience ouvrière. Et on l'a vu avec les manifestations jeudi dernier, les travailleurs qui continuent de se mobiliser mèneront la bataille jusqu'au bout de leurs forces. Indépendamment de leur chance de faire reculer le gouvernement, ceux qui manifestent expriment une colère plus large et tout simplement leur volonté de ne plus se taire, et ils ont 1000 fois raison, parce que les travailleurs se sont tus et ont encaissé en silence pendant trop longtemps. Une fraction des travailleurs montre désormais comment on peut relever la tête et se battre, et c'est un gage d'avenir. Ceux qui se battent, mais aussi tous ceux qui suivent, solidaires, ce bras de fer entre les travailleurs et le gouvernement, ont déjà beaucoup appris. Ils ont appris à déjouer les pièges et à dénoncer les mensonges gouvernementaux. Ils ont mesuré l'ampleur de la mascarade du jeu parlementaire et ils ont compris qu'un gouvernement prétendument socialiste était prêt à user de la répression et de l'interdiction de manifester pour faire taire la contestation, ce que la droite elle-même a rarement osé faire. Eh bien, ce sont des leçons qui ne seront pas oubliées. On l'a compris aussi, le gouvernement parie sur l'usure des manifestants. Mais à ce jeu-là, il n'est pas dit que le gouvernement ne cède pas le premier. Depuis 4 mois, chaque semaine, il y a des rebondissements. Avec leur calomnie et leur arrogance, Hollande et Valls donnent chaque semaine de nouvelles raisons de manifester. Alors, il faut continuer, répondre présent aux mobilisations et aux manifestations organisées par l'intersyndicale et participer en particulier mardi prochain à tout ce qu'ils organiseront. Parce que tant que des dizaines de milliers de travailleurs se battront, rien ne sera joué. Les travailleurs peuvent changer leur sort s'ils se servent de leur force collective et inversent le rapport de force entre le gouvernement, avec le gouvernement et le patronat. Bien sûr, le niveau de chômage affaiblit les travailleurs. Mais les capitalistes ne peuvent pas se passer de tous les travailleurs. L'économie continue de tourner. Si les poubelles sont enlevées tous les jours, pour le plus grand bien de tous, c'est parce que les éboueurs se lèvent tôt pour les ramasser. Pour que l'essence arrive dans les stations-service, il faut des routiers, des dockers et des travailleurs dans les raffineries et les dépôts de carburant. Et pour que des millions de femmes et d'hommes se rendent à leur travail, il faut des cheminots. Et comme l'ont montré les récentes grèves, ces travailleurs qui font marcher la pompe à profit peuvent aussi l'arrêter. Oui, lorsque les salariés arrêtent de travailler, c'est toute la vie sociale qui s'arrête. Et c'est alors que le patronat, les notables et les politiciens à leur service réalisent, enragés, combien ils sont dépendants des travailleurs. Car on l'a vu, les CRS peuvent déloger quelques centaines de manifestants qui bloquent une raffinerie ou une voie de chemin de fer. Mais ils ne peuvent pas remplacer les salariés de ces raffineries en grève, ni s'improviser conducteurs de train, aiguilleurs ou pilotes d'avion. Ils ne peuvent pas non plus remplacer les ouvriers sur les chaînes de montage, les employés, les techniciens ou les ingénieurs, qui sont tous des maillons indispensables pour faire tourner les entreprises. Par leur nombre, comme par leur présence dans tous les rouages de la vie économique, les travailleurs représentent une force sociale unique dans l'économie. Mais pour que les travailleurs soient en mesure de se battre réellement, et pour qu'ils usent de la force que leur donnent les grèves et les manifestations, il faut qu'ils soient capables d'affirmer leur point de vue de classe, d'exprimer leur mot d'ordre. Il faut qu'ils apparaissent comme une force politique. Dans leur grande majorité, les travailleurs se sont retrouvés dans le combat contre la loi El Khomri et dans l'objectif de préserver le peu de droits collectifs qui restent encore. Mais cette mobilisation a traduit en ras-le-bol et une colère plus générale contre l'aggravation de l'exploitation et de la précarité, contre le chômage et les reculs des conditions d'existence des travailleurs. Cette colère, ô combien légitime, doit se traduire en objectifs politiques. La classe ouvrière est confrontée à bien des problèmes. Elle a des difficultés pour se loger, se déplacer et même pour se soigner. Les travailleurs ont besoin d'hôpitaux publics, de cantines, de crèches. Mais leur vie, leur avenir et le futur de leurs enfants dépendent de leur emploi et de leur salaire. Le chômage et la baisse du pouvoir d'achat sont les fléaux les plus graves qui frappent le monde du travail. Les travailleurs doivent mettre en avant des mesures pour les combattre. L'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire et l'augmentation générale des salaires et des pensions de retraite. C'est autour de telles mesures que les travailleurs doivent pouvoir se rassembler politiquement. C'est autour d'un tel programme, un programme de lutte qui constitue qu'ils pourraient se rassembler, parce qu'il constitue une boussole politique. La droite, le Parti Socialiste et le Front National, qui monopolisent le débat politique, présentent tous leur politique comme favorable aux entreprises, aux Français, au peuple, à l'intérêt général. Mais ils servent en réalité les intérêts des Bettencourt, des Arnault, des Dassault, Muliez, Michelin, Peugeot. Ils raisonnent tous du point de vue du patronat, du point de vue des affaires et des prétendues difficultés du patronat. Comme le demande le grand patronat, ils veulent rendre la France compétitive, les entreprises rentables, la main-d'œuvre flexible et adaptable aux besoins du marché, en laissant croire que les salariés y ont aussi intérêt. Mais l'intérêt général n'existe pas dans cette société. Il y a deux classes aux intérêts opposés et contradictoires, les travailleurs d'un côté, le patronat de l'autre, qui s'affrontent en permanence dans les entreprises, sur les salaires, le temps de travail, la flexibilité, sur les conditions d'hygiène et de sécurité au travail. Pour gagner 10% de rentabilité, il faut que le patronat supprime 10% de salaire ou impose aux salariés de produire 10% de plus dans le même temps. Et contrairement aux mensonges de tous les politiciens, l'enrichissement du grand patronat dépend du degré d'exploitation des travailleurs. Il dépend de la lutte de classe. Cette lutte de classe, ce n'est pas une invention des communistes révolutionnaires. Elle est le quotidien de millions de femmes et d'hommes. Et les politiciens qui le cachent et font comme si elle n'existait pas, sont dans le camp du grand patronat, de ceux qui dominent et qui ont intérêt à ce que rien ne change. Le Parti Socialiste, la droite, mais aussi le Front National, sont des représentants politiques de la bourgeoisie. Et il n'y a pas à s'en étonner. Ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre à la bourgeoisie. Et ils sont tous les défenseurs du capitalisme et de l'ordre bourgeois. Ils se distinguent en mettant en avant leur politique et leur prétendue solution aux problèmes de l'économie. Tantôt, c'est l'innovation, tantôt c'est la flexibilité du marché du travail, le remboursement de la dette, tantôt c'est le protectionnisme, la sortie de l'euro ou la sortie de l'Europe. Pas une de ces politiques ne correspond aux intérêts des travailleurs. Accepter de se mettre à la remorque de l'un ou l'autre de ces politiciens quand on est un exploité, c'est nier sa propre existence de travailleur, c'est mettre ses intérêts sous la table, c'est ne pas mener le combat. Les travailleurs ont une politique propre à défendre, une politique indépendante. C'est la bourgeoisie qui est responsable du chômage et des bas salaires. C'est à elle qu'il faut demander des comptes. Les patrons font de leur profit la priorité. Eh bien, les travailleurs doivent faire de la lutte pour leur emploi et leur salaire leur priorité. Pour accroître ses profits et sécuriser ses affaires, la bourgeoisie veut que la vie des exploités dépende des commandes et des aléas du marché. Mais les travailleurs ne sont pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Ils ont une vie une famille. Leur loyer, les factures qui tombent tous les mois ne sont pas flexibles. L'estomac de leurs enfants n'est pas flexible. Les travailleurs ont besoin d'un emploi et d'un salaire garanti. La compétitivité et le capitalisme sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les salariés dans la guerre économique qu'elle mène contre ses concurrents et les utiliser comme de la chair à canon. Mais les travailleurs n'ont aucune raison de marcher, comme ils n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie basée sur leur propre exploitation et basée sur leur appauvrissement. La lutte des travailleurs pour leurs intérêts matériels et quotidiens est liée à la conscience que dans ce système, les exploités n'ont rien à perdre que leur chaîne. Elle est liée à la conscience d'avoir à contester la bourgeoisie et son pouvoir sur les entreprises. Elle est liée à la perspective d'avoir à renverser le système capitaliste pour fonder une économie sur des bases collectives. Élection après élection, les travailleurs font l'expérience qu'ils ne peuvent pas changer leur sort en votant. Ils savent que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient et qu'une fois élus, les politiciens s'empressent de renier le peu qu'ils ont promis aux travailleurs pour faire la politique des plus riches. Hollande, qui a passé son mandat à piétiner ses engagements de campagne, ne l'a que trop montré. Mais à chaque campagne électorale, cela recommence. Les politiciens jouent la même comédie du changement et promettent un meilleur avenir pour tous. Ce sont des mensonges grossiers, mais répétés mois après mois, semaines après semaines, et faute de lutte sociale d'ampleur, l'essentiel de la vie politique tourne autour de ce cirque électoral et de l'illusion que le bulletin de vote confère à chacun un peu de pouvoir. C'est une duperie. Car le véritable pouvoir n'est pas à l'Élysée, ni à Matignon. Les vrais maîtres de l'économie, de la société, ce sont les Bouygues, les Dassault, les Mittal. Ils disposent des capitaux, ils sont les maîtres des entreprises. Et ce sont eux qui tiennent dans leurs mains la vie de millions de salariés, l'économie, l'avenir de villes, voire de régions entières. Et tous ceux qui accèdent à l'Élysée, à Matignon, les hauts fonctionnaires, sont liés par mille liens à ces grands bourgeois. Ils sortent des mêmes milieux, ils fréquentent le même monde. Ils sont unis par le même mépris des pauvres, des ouvriers, des employés. Et, cerise sur le gâteau, ce sont les bourgeois qui financent même indirectement leurs campagnes électorales. Pour tous ces politiciens, gérer les affaires de l'État, c'est gérer les affaires de la bourgeoisie. Les travailleurs ne peuvent pas être représentés par ces gens-là. Mais cette conscience qui conduit nombre de travailleurs à s'abstenir, ne suffit pas. Car les travailleurs ont des intérêts et un programme à affirmer. Ils doivent les défendre, les faire connaître et essayer de réunir le plus de travailleurs autour de ces perspectives. Faire entendre le camp des travailleurs, que ce soit dans les luttes sociales ou dans les combats politiques que sont les élections, c'est la raison d'être de lutte ouvrière. Je serai candidate à l'élection présidentielle de 2017, de façon à ce que les travailleurs combatifs et conscients de leurs intérêts puissent faire un vote de classe. De façon à ce qu'ils puissent affirmer la fierté d'être travailleurs, la fierté de faire tourner toute la société et la fierté d'avoir pour perspective de s'émanciper en combattant l'exploitation capitaliste. Ma candidature se distinguera des autres parce que je ne vise pas à gouverner dans le cadre de cette société. Elle doit servir à ce que les travailleurs s'expriment, se regroupent, montrent aux autres travailleurs qu'il y a un courant qui défend d'autres perspectives que cette société d'exploitation. Les travailleurs, écœurés à juste titre par le spectacle donné par le PS, la droite et le FN, et qui ne s'estiment représentés par aucun de ces partis, pourront au travers de ma candidature faire un vote de classe. S'ils pensent que la société est riche à milliards et qu'aucun des sacrifices qu'on veut imposer au monde du travail n'est justifié. S'ils pensent que la société est divisée en deux classes et que les intérêts des capitalistes ne sont pas ceux des travailleurs, s'ils pensent qu'il est nécessaire de le dire haut et fort, eh bien, ils pourront le faire au travers de cette candidature. accepte le capitalisme et les conséquences qui vont avec, soit on les rejette. Et il faut avoir pour objectif de renverser le capitalisme. Il n'y a pas de voie médiane. Il n'y a plus de voie pour le réformisme. Il n'y a plus de voie pour ce que l'on appelle communément la gauche. Le PCF et Jean-Luc Mélenchon prétendent connaître une voie permettant à la condition ouvrière de progresser sans pour remettre en cause les fondements de l'exploitation. Mais les lois économiques puissantes s'imposent à tous ceux qui gouvernent. Ce sont les lois du profit, de la concurrence et du marché. Et dans la crise où nous sommes plongés, sauf voler des parts de marché à leurs concurrents, se racheter les uns les autres et spéculer, les bourgeois ne peuvent pas développer leurs affaires. Ils ne peuvent accroître leurs profits qu'au travers d'une guerre de classe féroce qui fera de plus en plus de victimes du côté du monde du travail. Ceux qui se réclament d'une vraie politique de gauche, que ce soit un Mélenchon ou un Montebourg, peuvent nier ces lois. Ils peuvent omettre la dictature de la bourgeoisie tant qu'ils ne sont pas au pouvoir. Une fois qu'ils y accèdent, et cela a été le cas de Montebourg, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui a été, je le rappelle, secrétaire d'État sous Jospin. Et bien une fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils n'ont que le choix de se ranger ou de démissionner. C'est pourquoi nous ne participerons pas aux diverses tentatives pour ressusciter une gauche gouvernementale, que ce soit autour d'un tel ou d'un autre. Nous voulons reconstruire un parti ouvrier qui met en avant les exigences des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Nous voulons un parti qui ne véhicule pas d'illusions électoralistes, mais qui dise clairement que le seul moyen pour changer la société, ce sont les luttes des travailleurs eux-mêmes. Nous voulons reconstruire un parti qui place sa confiance dans les travailleurs, dans leur capacité collective à se défendre et à transformer la société par en bas. Dans le passé, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire, avec la Commune de Paris en 1871, mais aussi avec la Révolution russe de 1917. Ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient transformer la société, en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, nous en sommes convaincus, les travailleurs sont encore porteurs d'une telle transformation révolutionnaire de la société. L'élection se rapprochera, plus le Parti Socialiste servira de la menace du Front National et de sa possible élimination du PS hein, au premier tour pour faire chantage au vote utile. Ceux qui, autour de nous, sont tentés par le FN se trompent gravement. Un parti qui s'en prend aux immigrés, c'est-à-dire à des travailleurs, à d'autres exploités, est un parti qui ne peut être qu'un ennemi et un des pires qui soit. Les idées les plus réactionnaires, les plus racistes, la défense du régime de Vichy, des guerres coloniales et même du fascisme sont dans les gènes du Front National. Et même si Le Pen père a été écarté par sa fille, regardez comment la petite fille, Marion Maréchal Le Pen, cette grenouille de bénitier, drague encore les royalistes. Si la crise s'aggrave, ses préjugés basés sur le rejet de l'autre se renforceront. Ils diviseront et affaibliront considérablement les travailleurs, et ils les livreront pieds et poings liés à l'exploitation patronale. Alors, le combat contre le Front National est le combat de tout travailleur conscient de ses intérêts. Les mois à venir doivent être l'occasion de s'expliquer avec tous ceux qui saignent aux sirènes du Front National et du repli sur soi. Car nous ne combattrons pas le Front National par des combines électorales. Comptez sur la droite ou sur le PS, profondément discrédité pour lui faire rempart, c'est se fourvoyer. Sur la politique sécuritaire, sur l'état d'urgence, sur la politique du droit d'asile, la droite, mais aussi la politique du gouvernement donne du crédit au Le Pen en renforçant les préjugés, en allant dans le sens de tous les amalgames contre les étrangers. Oui, le FN est un danger pour le monde du travail et un des pires qui soit. Mais il l'est parce que les travailleurs laissent la politique dans les mains des seuls représentants de la bourgeoisie, parce qu'ils ne se font pas entendre. Dès que le monde du travail se mobilise sur ses propres bases, sur des bases de classe, il n'y a plus de place pour les idées du Front National, plus de place pour son poison raciste et ses divisions. Alors, se battre pour mettre en avant les intérêts de classe des travailleurs est le seul et unique moyen de combattre l'influence de ces idées nauséabondes. Le terreau du Front National, c'est la crise, c'est cette guerre de classe qui crée le chômage, le chacun pour soi. Alors, il nous faut être capables d'offrir des perspectives pour lutter contre le chômage, la précarité et les bas salaires. Il faut nous montrer aussi les adversaires les plus résolus de ce système complètement fou. Le courant communiste révolutionnaire est faible, mais cela peut changer vite. Et il se doit de maintenir ses idées vivantes. Il se doit d'être de tous les combats, des combats sociaux, mais aussi des combats politiques. C'est pourquoi, tout en étant convaincus que les élections ne peuvent pas changer notre sort, nous tâchons de nous y présenter à chaque fois, et nous ferons donc le maximum pour la présidentielle de 2017. Donc Julien vous l'a dit, et je l'ai dit moi-même, mes camarades m'ont confié la tâche d'être candidate pour cette élection. Mais il faut que ce soit notre campagne à nous tous. L'élection présidentielle a ce petit avantage que nos idées peuvent être étendues, peuvent être entendues à l'échelle du pays, y compris là où nous n'existons pas beaucoup. Nous utiliserons toutes les possibilités médiatiques, mais les rares fois où les journalistes de la télévision ou de la radio seront censés me donner la parole, ils s'emploieront à la déformer et à la disqualifier. Et il ne faut pas s'en étonner. Jamais les militants du mouvement ouvrier n'ont réellement eu accès aux moyens de diffusion de la bourgeoisie. Alors, le succès de cette campagne ne se fera pas par médias interposés. Il dépendra de notre activité militante, de notre force de conviction, de notre capacité à nous faire comprendre des nôtres. Il revient à tous ceux qui se retrouvent dans nos idées de les diffuser et d'en convaincre leurs amis, leurs collègues de travail, leurs voisins, leurs proches. Il y a des discussions à mener, des arguments à apporter, des préjugés à combattre, des perspectives à ouvrir. Beaucoup de travailleurs, écœurés à juste titre par le spectacle politicien, ne s'estiment représentés par personne. Il faut nous adresser à eux et les entraîner à faire un vote pour faire entendre le camp des travailleurs. Cette campagne sera réussie si des centaines de milliers de travailleurs votent pour leur camp. Et propager ces idées et cette conscience fait partie des efforts nécessaires pour construire un parti. Un parti révolutionnaire peut grandir très vite s'il y a de grandes luttes sociales. Lorsque les travailleurs sont déterminés à changer leur sort, cela peut aller très vite. Mais il ne se développera que s'il y a préalablement des militants capables de rassembler et d'aider à s'organiser ceux qui veulent se battre. Et les élections peuvent nous servir à cela. Alors, je compte sur vous pour nous aider dans cette campagne et pour avancer sur la voie du parti qui est nécessaire au monde du travail. Il n'y a besoin ni de compétences particulières, ni d'avoir beaucoup de temps pour soutenir ma candidature. Il suffit de défendre autour de soi les idées que je viens de développer, l'idée que la société est riche à milliards et qu'aucun des sacrifices qu'on veut nous imposer n'est justifié. Cette idée que la société est divisée en deux classes. Et cette idée toute simple, qu'il faut défendre ses intérêts. Il faut défendre donc ses idées à son travail, dans sa famille, auprès de ses voisins. Face aux mensonges répétés matin, midi et soir par les médias, il faut que d'autres voix, d'autres sons de cloche se fassent entendre. Et lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine, le vote pour ma candidature permettra de faire entendre un autre son de cloche, celle du camp des travailleurs.